La doctrine de Christ No 34. Dieu est souverain. Jésus Néhémie l'était pas. Brian Kozurek, pasteur. Le 27 novembre 2011. Ce matin, nous continuerons notre étude de la doctrine de Christ et considérerons le fait que le Fils de Dieu n'était pas souverain, mais que Dieu est souverain. Ouvrons nos Bibles dans Jean 5:17, où nous verrons que Jésus était accusé par les Juifs de travailler le jour du sabbat, parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais écoute attentivement sa réponse au verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » 18 À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils Néhémie peut rien faire de lui-même, il Néhémie fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Remarquez que Jésus dit aux Juifs, qu'il est complètement impuissant, à moins que le Père Néhémie lui montre premièrement quoi faire. Il dit que le Fils Néhémie peut rien faire. Ainsi, si nous croyons Jésus, nous comprendrons que le Fils Néhémie peut pas sauver, il Néhémie peut pas guérir, il Néhémie peut pas racheter, il Néhémie peut rien faire à moins que le Père lui ait montré quoi faire. Ce Néhémie sont pas les paroles de celui qui est souverain. Mais Dieu est souverain. Dieu est omniscient et omnipotent. Maintenant, pour mieux comprendre comment ce principe de souveraineté distingue le Père du Fils, nous devons premièrement comprendre ce que ça veut dire d'être souverain. 1. Celui qui est souverain est à l'autorité suprême et Néhémie rend de compte à personne. 2. Celui qui est souverain a un règne suprême, et donc, il règne en maître absolu au-dessus de tous. 3. Par conséquent, celui qui est souverain est complètement indépendant de tous les autres. Maintenant, si nous sommes honnêtes dans notre étude de la différence entre le Père et le Fils, nous devrions aboutir à la conclusion que le Fils de Dieu n'est pas souverain, et que Dieu seul est souverain. Pourquoi pouvons-nous dire que Jésus n'était pas souverain? Parce que Jésus dépendait totalement de son Père pour agir et parler. Et non seulement ses actions et son discours étaient dictés et conditionnés par son Père, mais il avait aussi abandonné sa volonté à la volonté du Père. Jésus Néhémie disait pas ses propres paroles. Jésus Néhémie faisait pas ses propres œuvres. Jésus n'avait pas sa propre doctrine. Et Jésus a soumis sa propre volonté à la volonté de son Père. Dieu seul est souverain et il, le Dieu souverain, habitait dans son Fils, qui dépendait de lui en toutes choses. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Mais le Fils dépend toujours de son Père pour tout, y compris, parler, agir, enseigner la doctrine, et même soumettre sa propre volonté à la volonté du Père. Par conséquent, si nous devons comprendre la souveraineté de Dieu, nous devons d'abord apprendre la première règle de cette souveraineté, qui est Dieu a le règne suprême, il est le boss, et il a, par conséquent, une consigne spécifique pour tout ce qui se rapporte à sa position souveraine. Pour mieux comprendre la souveraineté de Dieu, nous devons en arriver au point où le premier rôle de la souveraineté est que Dieu dirige, il est le boss, il Néhémie rend de compte à personne, il dirige tout. Ainsi, cela nous conduit à la deuxième règle de la souveraineté qui est la domination, lui-même. Et nous savons que la domination, c'est l'autorité, puis l'autorité devient le pouvoir, car le pouvoir, c'est l'autorité. Car, Nous savons que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Cependant, l'omniscience doit précéder les deux autres, car Dieu n'est pas omniprésent comme s'il se trouvait partout en tout temps et remplissait tout l'espace. Mais son omniprésence vient du fait qu'il est omniscient, il connaît tout. Et donc, des trois, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence, le plus grand de tous, et l'ordre le plus élevé, c'est l'omniscience. Et c'est de là que vient la souveraineté. La puissance et la force de Dieu viennent de son omniscience. Car, pouvez-vous vous imaginer avoir toute la puissance et Néhémie pas savoir comment utiliser cette puissance? Ainsi, nous voyons que Dieu est l'absolu, il est l'ultime, il est le tout en tout, et Jésus le Fils de Dieu rendait des comptes à Dieu, son Père, et était soumis à son Père en toutes choses. Jésus a dit, Père, je voudrais que tu éloignes de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite. Ce Néhémie sont pas les paroles de celui qui est souverain. Chaque verset, qui parle du Fils, montre que le Fils de Dieu n'était pas souverain, mais qu'il était soumis au Père en toutes choses. Celui qui se soumet à un autre, n'est pas souverain. Hébreux 2, 8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui Néhémie lui fût soumis. Cependant, nous Néhémie voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. 1 Corinthiens 15:27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Écoutez le 19 mai 1957 p. 40 maintenant. Observez. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Son Fils, quand il était né ici sur terre, il était un Fils obéissant. Chaque pas était pour le Père. Tout ce qu'il a fait, c'était pour glorifier Dieu. Qui est-ce sous Melchizedek? 65-022-150 Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout ce que vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Et tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Après l'avoir pensé, il l'a prononcé et vous voilà. Si ce n'est pas ainsi, si vous n'étiez pas dans sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas, car il est celui qui donne la vie éternelle. 51 Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans l'Écriture, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui. Dieu est souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal à qui son affaire? Même la parole elle-même est souveraine. Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, Néhémie sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans ses œuvres. Encore une fois, le mot souverain est défini par trois choses. 1. Celui qui est souverain est à l'autorité suprême et Néhémie rendait compte à personne. Maintenant, par conséquent, Dieu étant souverain Néhémie rendait compte à personne, sauf à lui-même. De ce fait, Néhémie peut pas aller à l'encontre de sa propre parole. sinon il violerait sa souveraineté. Dans sa prédication, la manifestation de l'Esprit 17 juillet 1951 p. 14, frère Branham a dit, « Et maintenant, la guérison divine se base sur ces paroles. Et nous savons que Dieu est terre souverain. Les gens pensent que Dieu peut simplement faire tout ce qu'il veut. Dieu n'aimé peut pas tout faire. Dieu a une obligation envers ses paroles. Dieu n'aimé peut mentir. La Bible dit qu'il n'aimé le peut. Ainsi, il y a une chose que Dieu n'aimé peut pas faire. Et quand Dieu dit quelque chose, et fait une promesse, Dieu n'aimé peut pas revenir sur cette promesse, car il est terre Dieu, et il est terre souverain, et il n'aimé peut revenir sur cette promesse. Maintenant, combien croit que c'est terre vrai? 2. Celui qui est terre souverain a le règne suprême, et donc règne en maître absolu au-dessus de tout. Essayant de rendre à Dieu un service. 65-07-28-29 Dieu est terre souverain. Et nous voyons ici, par la lecture de Chroniques 13, ce que David a fait. Il était. Ses intentions étaient bonnes. Mais Dieu ne nous attribue pas des mérites pour avoir eu de bonnes intentions. Il n'y a qu'une façon de servir Dieu, c'est taire de faire sa volonté à son commandement. Et Dieu étant souverain, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Il le fait de la manière qu'il sait être correct. Et cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous. Et je suis sûr que c'est taire le cas. Car, autrement, l'un voudrait que cela vienne de cette manière, et l'autre que cela s'en aille de telle autre, et un troisième d'une manière différente encore. 3. Par conséquent, celui qui est terre souverain est terre totalement indépendant de tous les autres. Maintenant, bien que frère Branham ait dit que la souveraineté de Dieu est dictée par sa parole, et que Dieu doit se rendre des comptes. Cependant, frère Branham clarifie aussi qu'en tant que souverain, il n'est mis rendre compte à personne d'autre qu'à lui-même, comme nous le voyons dans sa prédication, le message de grâce 61-08-2730. La grâce souveraine vient de celui qui est terre souverain. La grâce souveraine venant de celui qui est terre souverain. La souveraineté, que peut-elle faire? La souveraineté peut faire tout ce qu'elle veut. Écoutez ceci maintenant. La grâce souveraine Néhémie peut être accordée que par celui qui est terre souverain. Et Dieu est terre souverain, il peut donc accorder la grâce souveraine. C'est terre pourquoi, étant souverain, la grâce n'a pas à demander à qui que ce soit. Elle n'a pas à le faire. Elle fait ce qu'elle veut. N'est-ce pas merveilleux? Elle n'a pas à demander, est-ce ce que je peux faire ceci? Ou dois-je faire ceci? Puis-je? Dois-je? Puis-je? Elle n'y fait pas cela. Elle le fait d'elle-même. La grâce est souveraine. Par conséquent, il peut sauver la personne la plus vile. Il peut sauver la personne la plus mauvaise. Il peut sauver la personne la plus basse. Il peut sauver la personne la plus immorale. Il peut guérir la personne la plus malade. Alléluia. Jean 5, 20. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Remarquez, Jésus dépendait de Dieu pour lui montrer en vision quoi faire. Jean 5:21, car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5:22, le Père n'aime ni juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Romains 15:5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Jean 12:44. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Jean 5:23 « Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Quand nous honorons le Fils, nous honorons le Père, parce que le Fils Néhémie fait que ce que le Père lui donne l'ordre de faire. Donc ce que nous voyons, c'est Esther le Père qui agit, le Fils aussi agit. Quand nous honorons le Fils, nous reconnaissons le rôle prééminent du Père, et le rôle d'obéissance totale du Fils à son Père. Jean 5:24 en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et Néhémie vient point en jugement, mais il est Esther passée de la mort à la vie. Jean 14:10b les paroles que je vous dis, je Néhémie les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est Esther lui qui fait les œuvres. Les trinitaires utilisent plusieurs arguments pour expliquer comment Dieu et Jésus sont un comme votre don à Esther 1. Les unitaires font simplement la même chose, mais avec une approche différente. Alors que les trinitaires voient trois personnes impliquées, ils essaient de faire de un comme un triangle à trois angles. Mais Dieu et son Fils sont un par la parole de Dieu. Dieu est Esther la parole. Et sa parole a été exprimée dans la personne de son Fils. Les écritures suivantes sont celles que les trinitaires utilisent pour essayer d'expliquer une divinité trinitaire. Philippiens 2, 6 étant en forme de Dieu Colossiens 1:15 l'image du Dieu invisible. 2 Corinthiens 4, 4 Christ, qui est à l'image de Dieu. Jean 12:45 celui qui me voit, l'a vu, Jean 14:9 celui qui m'a vu, a vu le Père Colossiens 1:19 en lui habita la plénitude Colossiens 2:9 en lui, habita toute la plénitude Hébreux 1, trois images exprimées de sa personne, ces écritures peuvent être classées en deux groupes. L'un, il croit que Jésus était en forme de Dieu, signifie qu'il est Dieu. Là, il raisonne car il Néhémie comprenne pas le français. Une forme ou une image n'est pas la même que l'original. Et il Néhémie comprenne pas la vie Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu a placé dans le sein de la femme un corps complet. Hébreux 10, 5 mais tu m'as formé un corps, c'est-à-dire, à la fois l'ovule et le sperme, Hébreux 1, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite, l'homme Jésus, le corps, le Fils de Dieu est né avec chaque attribut et chaque caractéristique qui était en Dieu. En d'autres termes, Dieu a injecté son ADN divin, pour ainsi dire, tout ce qu'il était de façon intrinsèque, il l'a placé dans le patrimoine génétique du Fils de Dieu et par conséquent, ce corps était une réplique vivante et respirante du Père, mais cette copie n'était pas le Père, mais à l'image du Père. Maintenant, une image n'est pas l'original, c'est une image de l'original. Et si l'Esther venu à l'image du Père, alors il n'était pas le Père lui-même. Par conséquent, Néhémie pensait pas un seul instant que Jésus, le Fils de Dieu était Dieu le Fils. Le mot image signifie, ressemblance ou caractère gravé. Jésus était l'expression physique de la vie Dieu dans un homme. Son caractère a reflété tout ce qui est à Dieu ou ce que cette vie Dieu pouvait exprimer dans un corps physique. Par conséquent, les hommes ont pu connaître le caractère de Dieu en regardant à la vie de Jésus. Sa vie révèle la sainteté de Dieu. Sa vie révèle la justice de Dieu. Sa vie révèle l'amour de Dieu. Sa vie révèle la miséricorde de Dieu. Sa vie révèle la bonté affectueuse de Dieu. Sa vie révèle la vérité de Dieu. Sa vie révèle la sincérité de Dieu. et sa vie révèle la fidélité de Dieu. Par conséquent, l'homme Jésus était divin, et il était semblable à Dieu en caractère et en conduite. Mais Jésus n'était pas Dieu lui-même, mais il a reflété le caractère de Dieu dans sa vie. Les versets qui font allusion à la plénitude de la divinité demeurant en Christ, Néhémie font pas de l'homme lui-même Dieu, parce que Dieu n'Esther pas chair et sang, Dieu Esther esprit, et il n'Esther ni chair ni osée. Le Dieu invisible Esther descendu et a demeuré dans son fils au fleuve Jourdain, où Jean a vu la lumière de manière visible, c'est-à-dire, la colonne de feu descendre, briller au-dessus de Jésus, et demeurer en lui. La même onction l'a quitté dans le jardin de Gethsémané. C'est Esther pourquoi il pouvait crier à la croix son Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'onction l'a quitté en sorte qu'il puisse mourir comme mortel. Car aussi longtemps que Dieu demeurait en lui dans cette plénitude, il Néhémie pouvait pas mourir, bien qu'ils ont essayé beaucoup de fois et par beaucoup de façons de se débarrasser de lui. Luc 24, 39. Ils pensaient que Jésus était un esprit, mais lorsqu'il leur a montré ses mains et ses pieds, ils surent qu'il n'était pas un esprit. Maintenant, Dieu était esprit, mais Jésus était un homme en qui le grand esprit suprême a demeuré. Après les avoir salués, Jésus leur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Montrant qu'il n'était pas le Père, mais qu'il était envoyé par le Père, et par conséquent, soumis au Père. Étant donné que les Trinitaires utilisent les paroles de Thomas comme preuve que Jésus est à Dieu, alors le diable a le droit d'utiliser les paroles de pharisiens selon lesquelles Jésus était un blasphémateur. Parce qu'on peut trouver les deux déclarations dans la Bible, qui parlent de qui il pense que Jésus est. Cet argument Néhémie peut pas résister aux centaines d'épreuves scripturaires que nous avons présentées. Juste parce que quelqu'un dit des paroles dans la Bible, que ça fait de ces paroles les paroles de Dieu. La Bible dit que Judas Esther partit et s'Esther pendue, et dans un autre passage, dans Luc 10:37, Jésus a dit, allez-y et faites de même. Vous devez dispenser correctement la parole de la vérité. Une mauvaise division de la parole apporte la mort spirituelle. Un autre verset que les trinitaires utilisent, c'est Esther Tite 2, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Cependant, cette écriture Néhémie parle pas du Fils de Dieu, mais du Père de gloire comme Paul parle de sa venue dans Éphésiens 1, 17 et 1 Thessaloniciens 4, 15-18. L'apparition parle de la présence du Saint-Esprit, Dieu lui-même, avant la venue littérale du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu que nous rencontrons dans les airs ou dans les nuées. Les Écritures parlent d'une apparition du Père de gloire, ici sur terre avant que nous n'allions rencontrer le Fils de Dieu dans les airs, non pas ici sur la terre, juste comme nous le voyons dans le livre de la Genèse, où Dieu Esther apparu à son prophète Abraham avant la venue du Fils promis. 37 Dans la traduction NIF, nous lisons Hébreux 1, 3 comme suit, le Fils Esther le rayonnement de la gloire de Dieu et l'exacte représentation de son être, soutenant toute chose par sa parole puissante. Nous trouvons aussi dans la version amplifiée de Hébreux 1, 3, il est Esther la seule expression de la gloire de Dieu, l'être lumière, le rayonnement du divin. Et il Esther la parfaite empreinte et l'image même de la nature de Dieu, soutenant, et maintenant et guidant et propulsant par la parole puissante de sa puissance. Toute autre traduction de ce passage serait contraire à la vérité de la Bible et aux paroles de Jésus-Christ lui-même, dont il Esther fait mention dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est Esther qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu est connu comme étant le seul vrai Dieu. Nous trouvons dans Jérémie 10, dit Tom, mais le Seigneur est-il un Dieu véritable? Il est-il le Dieu vivant? Roi pour toujours. Bible de Jérusalem. Mais Yahvé est-il le Dieu véritable? Il est-il le Dieu vivant et le Roi éternel. On parle encore de lui comme le vrai ou véritable Dieu dans 2 Chroniques 15, 3 top pendant longtemps. Israël a été son vrai Dieu, son prêtre pour enseigner, sans loi. William Branham, le prophète de Dieu pour ce dernier âge, a résumé la relation entre Dieu et son fils Jésus-Christ par les paroles suivantes. Une délivrance totale 59-07-1-287. Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer, comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait être fatigué, comme un homme. Il était complètement, totalement homme, dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu'il a été, Hébreux 1.4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet, pour produire une délivrance totale, et il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand il a parlé aux arbres, et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu, à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme, mais il s'estère totalement et complètement remis, comme homme, entre les mains de Dieu, pour être au service de Dieu. Et il estère notre modèle. Montre-nous le Père et cela nous satisfera. 56-04-2-36. Maintenant, si Esther à plusieurs reprises, qu'il Esther dit que personne n'est mis peut voir Dieu, la Bible l'a dit. Mais le Fils unique engendré du Père l'a fait connaître. Philippe ici était très curieux. Il voulait voir le Père. Il Esther dit ici qu'il a dit, je suis depuis si longtemps avec vous, Philippe. Et tu n'aimes me connais pas, a-t-il dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. En d'autres termes, vous voyez le Père s'exprimer lui-même à travers le Fils. Lui et le Père étaient dans le sens que son Père habitait en lui. Ce n'est-ce pas lui qui faisait les œuvres? Il était un Fils, lui-même, l'immortel, né d'une vierge, Fils de Dieu. Et en lui, habitait Dieu, le Père, s'exprimant lui-même au monde, son attitude envers les gens. Voyez? Bien. C'est-à-dire ainsi que Dieu et Christ étaient un. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, il a dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dites-vous? Montre-nous le Père? Nous voudrions voir Jésus 58-06-1-2-55 lorsqu'il était ici sur terre. Combien savent que c'était la colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert? Que c'était Christ? L'ange de l'Alliance? Très bien. Et combien savent-ils que c'était Jésus dans Jésus? Ce même esprit? Dieu dévoilé 64-06-14-259. Jésus l'a dit. Une fois, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Voyez? Dieu et sa parole sont un. Maintenant vous comprenez? Quand la parole est manifestée, Qu'est-ce que Esther? Voyez. 260 Jésus a dit, sondez les Écritures. Vous pensez avoir. Vous avez cru en Dieu. Croyez aussi en moi. Si je n'ai fait pas les œuvres de mon Père, alors n'ai me croyez pas. Mais si je les fais, ces œuvres, moi et mon Père, nous sommes un. Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. 261 Et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu. Parce que la parole Esther le Père. La parole Esther Dieu. Et la parole manifestée, c'est Esther Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Le paradoxe 61-1012 253 Jésus faisait les œuvres de son Père parce que le Père était en lui. C'est Esther pourquoi les œuvres étaient faites? Parce que le Père était dans le Fils. Le croyez-vous? Quand lui, il était le Dieu incarné. Le croyez-vous? Que Dieu le Père, qui est Esther le Père de Jésus-Christ, le grand Esprit a demeuré dans la plénitude de sa puissance en Jésus-Christ, qui était le tabernacle de Dieu, fait chair et a demeuré sur la terre, représentant la parole. Le paradoxe 61-1012 315 Je crois que Jésus-Christ est Esther le Fils du Dieu vivant, né d'une vierge, conçu, Dieu dans un sein, un tabernacle dans lequel il allait habiter. Je crois qu'en Christ, il est Esther le Dieu incarné. Il est Esther Dieu fait chair. Quand Dieu, le Père Esther entré en Jésus-Christ, il était la plénitude la divinité corporellement, en lui habite toute la plénitude. Dieu, le Père prononçait la parole. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui parle, mais mon Père qui habite en moi. C'est Esther lui qui parle. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, septembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.